Trois lectures, la première dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10 et versets 12 à 19. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Puis dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 24 à 27. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Et l'évangile de ce jour se trouve dans Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Éternel, ta parole est chemin, ta parole est lumière, ta parole est source de vérité. Voilà, la semaine dernière, normalement, où que vous ayez été au culte, nous étions déjà dans ce chapitre 18 de Luc, et nous étions avec la parabole de la pauvre veuve et le juge inique, qui nous inspirait d'ailleurs une action auprès de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui peuvent changer les choses. Et notre passage du jour en est donc la suite immédiate dans l'évangile de Luc. Une autre image, Jésus aimait bien parler en parabole, en image, vous savez peut-être qu'on en compte une cinquantaine dans les évangiles, et sur cette cinquantaine, Luc en rapporte 40, dont 15 qui lui sont propres. Et cette parabole du pharisien et du publicain fait partie de ces récits qu'on ne trouve que chez Luc. Alors, pour ne pas vous le cacher, quand j'ai relu ce texte cette semaine, ce qui m'a interpellé, et que je n'avais jamais vraiment noté jusque-là, et pourtant j'ai prêché déjà sur ce texte, c'est que lorsque Jésus dit ces mots, eh bien le contexte, dans lequel il les dit, c'est exactement le même que celui de la semaine dernière, c'est-à-dire celle de la pauvre veuve et du juge, et même de ce qui précède, c'est-à-dire que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. À ses disciples. Hein, il n'est pas en train de polémiquer avec quelques religieux venus le piéger. Non, il s'adresse à ses disciples. Et très curieusement, Luc commente, et c'est ça qui m'a interpellé, il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voilà ce qui m'a interpellé, c'est qu'il dit ces paroles à ses amis, à ses disciples. Et puisque ça leur est adressé, donc potentiellement c'est à nous, disciples qui écoutons aujourd'hui, que cette histoire est adressée. Et j'aime bien cette idée. Il est donc possible que nous soyons des disciples nous croyant justes, ayant plutôt une haute opinion de nous-mêmes, mais avec très peu d'égard et d'attention aux autres. En d'autres termes, cette petite histoire de Jésus nous concerne. Alors en général, on réduit vite cette parabole à une belle leçon d'humilité. L'humilité, c'est une très belle vertu et c'est très utile pour élargir le royaume de Dieu, très bien. Mais chercher des leçons de morale dans l'Évangile, c'est souvent le meilleur moyen de s'y égarer. Alors je vous propose ce matin d'y cheminer avec un œil neuf, une âme ouverte, un esprit curieux de ce que nous pourrions en recevoir pour nous aujourd'hui, 2000 ans après, et en retenir pour nos chemins de vie. Peut-être, avant de vraiment rentrer dans cette histoire, donc racontée à ceux parmi nous qui nous persuadons peut-être d'être justes, je voudrais juste essayer d'éclaircir justement de quoi parlait Jésus. Un homme juste, ce n'est pas comme dans notre conception moderne du mot qui consiste plutôt à rendre à chacun ce qui lui est dû. Dans le judaïsme du temps de Jésus, être juste, c'est vivre pour beaucoup en conformité avec la loi, la Torah. Parce que c'est dans cette obéissance que se cherche et que se trouve éventuellement le bonheur. Comme le rappelle, par exemple, ce verset du Deutéronome que nous avons lu et que je vous relis. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » En d'autres termes, cette justice recherchée est très liée au bonheur. Jésus dit donc cette parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Alors voilà au moins un point sur lequel, dans la vie de l'un de ces hommes qui n'est pas juste, c'est son mépris pour l'autre. Et on se doute bien que Jésus ne peut pas être d'accord avec un cœur méprisant, lui dont le cœur est toute tendresse, tout accueil, tout pardon. Et Dieu ne méprise personne. En fait, ce qu'a montré Jésus de son passage sur terre, c'est que plus un être est petit, faible, déficient, abîmé, malade, défiguré, plus Dieu l'aime. Et plus il le cherche, plus il le veut. Et c'est évident d'ailleurs parce que plus un être pourrait mériter le mépris, plus il a besoin d'être aimé d'un amour gratuit. Le Dieu, celui que Jésus a révélé, le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu des paumés, des rejetés, des étrangers, des laissés pour compte, des déprimés, des condamnés, des blessés de la vie, des marginaux, des mal-aimés. Le Dieu que nous fait connaître Jésus-Christ ne méprise personne. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Alors Jésus campe devant nos yeux deux personnages bien opposés. Et peut-être que certains d'entre nous manient très bien les notions de pharisiens, de publicains, que ces notions nous sont familières parce que nous fréquentons l'Église, mais je me suis dit, si quelqu'un entrait ici et entendait ce texte pour la première fois, ou était en contact avec l'Évangile pour la première fois, eh bien, je crois que je comprendrais sa perplexité à écouter ces mots. Est-ce que c'est un pharisien? Est-ce que c'est un publicain? Alors, un pharisien, déjà, ce n'est pas, à l'époque, quelqu'un qui venait de France et de la superbe ville de Paris, C'était un groupe religieux du judaïsme, une branche peut-être la plus importante du Sanhédrin, avec d'autres branches. C'était ce qui représentait l'autorité juridique et religieuse du judaïsme du temps de Jésus. Et là, je voudrais peut-être en profiter aussi pour faire un rectificatif, parce que nous avons souvent une mauvaise représentation de ce que les pharisiens étaient, ou en tout cas, tels que nous les rapportent les évangiles, qui sont rédigés, pour rappel, à la fin, toute fin du 1er siècle, dans la deuxième partie du 1er siècle. Au temps de Jésus, l'idée pour les pharisiens, c'était de se séparer, ce qui veut dire d'ailleurs le mot pharisien, de se séparer du péché ambiant par l'observance rigoureuse de la loi. Et ils étaient plutôt sérieux avec ça. C'est pour ça qu'on les trouve toujours si tatillons, toujours en train de pinailler pour un détail de la loi, de la Torah, à propos du Shabbat ou des guérisons. Mais en vérité, si les évangiles écrits plus tard donc, sont si sévères à l'égard des pharisiens, c'est parce qu'au moment de leur rédaction, après la chute de Jérusalem, donc en 70, par les Romains, et la destruction du Temple, les pharisiens, qui étaient partisans de la branche la plus dure, on va dire, du judaïsme, en étaient venus à persécuter les judéo-chrétiens, les premiers juifs à se tourner vers le Christ, les juifs messianiques, les premiers juifs à reconnaître Jésus comme le Messie. Ils ont été persécutés, on le voit dans les Actes, par exemple, au chapitre 9, avec Étienne. Ce que je veux dire, c'est que malgré ce que nous en lisons dans les évangiles et dans les Actes des apôtres, au temps du Christ, les pharisiens n'étaient pas des adversaires farouches de Jésus. Dans les quatre évangiles, on les voit inviter Jésus à leur table, l'interroger, lui poser des questions, lui demander conseil ou même prendre sa défense devant les autorités. Les pharisiens étaient des chercheurs de Dieu et ils le cherchaient dans l'obéissance à la loi, dans la fidélité à la Torah. Les publicains, eux, c'est une toute autre affaire. Le publicain est un collecteur d'impôts, et le mépris que ressent le pharisien à son égard est sans doute très représentatif du mépris que devait ressentir toute la population à l'égard de tous les collecteurs d'impôts. Et ceci pour plusieurs raisons. On les méprisait, on crachait même sur leur passage, on changeait de trottoir, si je puis dire, à chaque fois qu'on était amené à en croiser un. Plusieurs raisons, je vous en rappelle quelques-unes. Tout d'abord, ils étaient chargés de collecter l'impôt pour l'occupant romain. Et c'est la première raison qui fait que les publicains étaient mal considérés, c'est que quand on pensait à eux, on pensait collabos, on pensait traîtres. Ensuite, comme ils ne recevaient pas de salaire, ils se sentaient très libres d'augmenter ce qu'ils étaient censés demander, demander une part en plus pour eux-mêmes. Et comme ça, ils pouvaient quelquefois... Ces parts en plus étaient exagérées, elles étaient au-delà de toute mesure, mais ils avaient la loi romaine de leur côté, ils avaient l'armée romaine de leur côté, ils étaient protégés en quelque sorte, et ils se sont beaucoup enrichis comme ça. Et donc, on les méprisait aussi comme voleurs et comme escrocs. Enfin, il y avait peut-être aussi un motif religieux à ce mépris. Comme leur métier les obligeait à manier la monnaie romaine, ils passaient leur journée dans le sacrilège infâme aux yeux des religieusement les plus purs, les plus durs, parce que rappelez-vous que les pièces d'argent étaient frappées à l'effigie de l'empereur, donc le chef de l'occupant romain, et avec une inscription proclamant sa divinité, ce que les juifs à l'époque associaient facilement à l'idolâtrie. Bref, dans le langage courant, on associait le pharisien au sage, au pur, au religieux, et le publicain au collabo, au renégat, au païen, au voleur, aux idolâtres, aux prostituées. Voilà posés nos deux personnages. Et pourtant, si on y regarde de près, ce n'est pas du tout la sainteté de l'autre ou la vie de péché du deuxième qui sont en jeu ici, c'est juste leur attitude intérieure dans la prière. Ce n'est pas leur vie, mais c'est leurs pensées les plus intimes, c'est l'attitude de cœur de leur prière qui est là comparée par Jésus. Et rappelez-vous que nous sommes donc dans un enseignement sur la prière depuis le début du chapitre, et il nous place aujourd'hui devant ces deux attitudes très différentes dans la prière. La première, bien sûr, celle du pharisien, une espèce de professionnel de la prière, un champion de la Torah, un imbattable de la relation à Dieu, et à l'entendre lui-même un homme formidable. Parce qu'il n'y a pas à douter un instant que tout ce qu'il annonce dans sa prière, il le fait vraiment dans sa vie, et qu'il en fait plus encore, on peut imaginer ça. En fait, c'est une très belle prière de reconnaissance et de louange gratuite qui ne demande rien à Dieu, mais qui parle beaucoup de lui-même quand même. Alors justement, Jésus expose trois problèmes dans l'attitude intérieure de cet homme religieux. D'abord, malgré toutes ces belles prières et toutes ces belles qualités, cette prière du pharisien trahit quand même quelque part une hypertrophie du moi. Vous l'avez sans doute remarqué dans ces quelques mots, il a trouvé le moyen de s'exprimer à la première personne 5 fois de suite. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne 2 fois la semaine, je donne le 10e de tout ce que je gagne. » En fait, c'est une prière narcissique, on se demande si c'est Dieu ou lui-même qu'il est en train de louer. Dieu, qui est invoqué au début de la prière, semble ici réduit d'ailleurs au rôle de spectateur, ou plutôt d'auditeur d'un monologue d'autosatisfaction. Et on peut même se demander si Jésus, dans cette parabole, ne laisse pas entendre que ce religieux au monothéisme farouche est en fait presque idolâtre. Il n'est pas loin de s'adorer lui-même. Et puis une autre chose qui est dénoncée par Jésus, c'est qu'au passage, ce pharisien, sans complexe, prend la place de Dieu comme juge. Et c'est vraiment ce qui est blâmable dans cette attitude de cœur, c'est que pour mieux rehausser ses mérites, il commence par confesser complaisamment les péchés des autres. Or, c'est là l'essence même du péché dans la Bible. Ce pharisien, c'est l'homme irréprochable, le bon pratiquant, le juste. Le publicain, c'est le pécheur type, l'image de la déchéance morale. Mais là, encore une fois, ce sont leurs deux attitudes fondamentales dans la prière qui intéressent Jésus. Le pharisien n'est pas justifié grâce à sa bonne conduite, et malgré sa longue prière, il ne repart pas justifié à cause de sa mauvaise attitude de cœur. Le publicain, lui, ne sait pas prier, mais il ressort justifié malgré sa mauvaise conduite et en raison de sa bonne attitude de cœur. Si le pharisien se pense comme un saint, le publicain, lui, se sait pécheur. Or, on est pécheur dans la Bible quand nous ratons la cible, quand nous passons à côté de ce bonheur qui est dessiné pour nous. Quand nous faisons des mauvais choix aussi. Me reconnaître pécheur, c'est reconnaître que je passe à côté du meilleur de moi-même, du meilleur pour moi-même et du meilleur pour les autres. Repartir justifié, c'est repartir libre. Libre de devenir, libre d'avancer, libre de tout ce qui nous a enfermés, libre de notre ego. Le publicain de notre parabole n'est sûrement pas un modèle de vertu, on est bien d'accord, mais il devient juste parce qu'il se connaît en profondeur. Il n'est pas à adorer son ego, qui n'est que surface, mais il se connaît en vérité et en profondeur. Il repart justifié parce qu'il prie avec humilité et que parce que de là où il est, il met Dieu à sa vraie place. C'est à lui qu'il s'adresse. Au lieu, comme le pharisien, de contempler sa propre vertu dans une prière de louange pour ses propres mérites. Dans sa prière, vous l'avez entendu, le publicain n'osait pas. Comme bien souvent nous-mêmes, nous n'osons pas. Ne faut-il pas en conclure que celui qui prie doit d'abord reconnaître qu'il ne sait pas prier et qu'il doit seulement et simplement se rendre disponible pour que l'Esprit de Dieu vienne prier en lui, comme le suggère l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. L'Esprit vient toujours nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'esprit. Amen.